Madame Irina Gorgunova. Donc c'est un plaisir que Michael m'a proposé de vous présenter son épouse. Il faudrait que ce soit moi qui le fasse. Très bien, j'en profite donc. Voilà, et bien Irina a fait des études de graphiste et puis d'histoire de l'art, peinture et iconographie. Elle est très expérimentée dans tout ce qui concerne l'icône, mais pas seulement l'icône, mais justement la technique du dessin en général, l'histoire de l'art, etc. Elle a aussi réfléchi sur comment tout cela se situe dans la théologie. Elle a écrit un ouvrage que vous pouvez acheter ici, dans l'exposition. Donc je rappelle qu'au bout de ce couloir, derrière le mur, là, il y a une exposition qu'il faut absolument aller visiter. Elle a écrit un ouvrage qui a été traduit en français, « L'icône, vérité et élucubration ». Mais vous pouvez l'acheter en russe aussi. C'est un très bon exercice. Alors, elle a une académie ici à Bruxelles qui compte une vingtaine d'étudiants, dont certains ou certaines sont ici. Irina a déjà peint les iconostases des églises Saint-Nicolas à Bruxelles, l'église orthodoxe roumaine, de Saint-André à Alost, pour l'église orthodoxe roumaine également. Elle se trouve à la cathédrale Urus Saint-Nicolas à Bruxelles, à Saint-Séraphim à Namur, au monastère de Pervise, tous de l'église russe, et à la chapelle épiscopale auprès des institutions européennes catholiques romaines, au monastère d'Hermeton-sur-Bière et dans différentes collections privées. Donc c'est quelqu'un qui vraiment donne tout son temps et toute son énergie à ce travail des icônes. Elle m'a dit qu'elle n'était pas une conférencière, mais une artiste. Alors, nous avons quand même écouté sa conférence. Voilà.
Mes amis, je m'excuse d'abord dire mes prêches en tournant le dos par vous, parce que c'est nécessaire que je regarde en même temps l'écran, le clavier et mes notices, mais pour me poser les petites questions. Après, je vais de nouveau prendre la place à la table. Alors, et le sujet de mon exposé d'aujourd'hui, l'icône comme instrument de la tradition. Quelle tradition? De quelle tradition s'agit-il? Bien sûr, de la tradition de la connaissance de Dieu, bien sûr, et pas de la tradition culturelle ou ethnique. Et il se peut que vous attendez de moi, qui est iconographe, juste pour me présenter, c'est une des icônes peintes par moi, et vous attendez de moi un discours dans cette tradition assez nouvelle, mais déjà bien enracinée, qui présente l'icône comme un phénomène purement occidental, sans d'ailleurs donner, oriental, bien sûr, sans d'ailleurs donner aucune définition à l'icône. Mais c'est le contraire que je vais faire. On va d'abord essayer de donner la définition à l'icône, et après on va voir si c'est vraiment un phénomène oriental. L'icône, c'est l'image de Dieu incarné, Dieu qui est devenu homme, ou de l'homme déifié, dont on a parlé dans la conférence précédente. Aujourd'hui, on va parler surtout et presque exclusivement de l'image de Dieu, parce que son image, c'est l'icône de majuscule, c'est l'icône par excellence. Et toutes les autres icônes, toutes les autres images religieuses sont secondaires par rapport à son icône de lui. Mais avec ceci, nous savons que pas toutes les images de Dieu sont icônes. Et pour distinguer mieux les unes des autres, on est obligé de commencer à bord par des racines paléochrétiennes. Paradoxalement, mais l'Église paléochrétienne ne connaissait pratiquement pas l'icône. L'art paléochrétien était très développé il y a 100 ans, voire les 1000 monuments qui sont parvenus jusqu'à nos jours, mais tous ces monuments ne sont pas, justement, pratiquement tous ces monuments ne sont pas icônes. D'abord, ce sont des images symboliques. Dieu est représenté dans ces images sous l'air d'un petit poisson, de l'agneau, de vigne. Les raisons pour ces représentations, vous connaissez bien, je ne vais pas y rester longtemps. On utilisait aussi les symboles traditionnels pré-chrétiens, comme les pans, comme le phénix, les palmiers. Les symboles païens de la vie éternelle, de procréation, de la résistance à la décomposition. Dans un nouveau contexte chrétien, il était naturellement lié au Christ et devenait ses images sans être ses icônes. Les symboles formaient parfois des ensembles entiers qui transmettaient les vérités théologiques, les vérités dogmatiques assez complexes. Mais toutes ces images seulement rappelaient aux fidèles l'information qu'ils connaissaient déjà, et rappelaient dans la manière conditionnelle, uniquement parce que les fidèles connaissaient déjà ces vérités dogmatiques, et en plus connaissait le code par lequel cette information était conditionnellement transmise. Parfois, on ajoutait dans ces ensembles de symboles les figures du Christ lui-même. Mais seulement la mise de cette figure dans le contexte, dans le tissu symbolique, qui permettait de définir cet homme comme Christ. Département séparé dans cette série de sujets symboliques, c'était les images allégoriques. Ici, c'est le sujet et pas l'objet de la dépiction qui était porteur de l'information symbolique. Par exemple, le sujet vétérotestamentaire du prophète Jonas, comme ici, ou autre sujet symbolisé ou prédisait, si vous voulez, un autre sujet nouveau testamentaire, et celui-ci, à son tour, raconté aux fidèles du Christ. Ou bien un sujet vétérotestamentaire était rempli par le contenu, nouveau contenu dogmatique, comme par exemple cette image de la fournaise de Babylone, était vue comme image de la Sainte Trinité. Et là aussi, on utilisait les sujets pris pas seulement dans l'Ancien Testament, mais dans les mythologies païennes. Par exemple, cette allégorie du Christ sous l'air de Dieu du Soleil Gélos, qui décorait la coupole de mausolée chrétien à Rome. Et les liens, les raisons pour ces liens sont claires. Le Christ, c'est la lumière de la vérité, c'est le soleil de la vérité. Alors, le Gélos, logiquement, était lié avec le Christ. Ou bien ce sujet qui représente Orphée, les liens avec le Christ étaient réalisés par le fait que Orphée descendait dans le royaume des ténèbres, le royaume des morts, et ça prédisait la mort et la résurrection du Christ. Ou bien le sujet qu'on connaît sous le nom de bon pasteur. En effet, c'est la représentation du sujet païen avec Hermès Triophore, qui était naturellement lié avec le Christ à cause de cette fameuse citation de l'Évangile. Et les fidèles reconnaissaient dans ces images la vérité parce que étaient déjà instruits dans cette vérité et en plus disposaient du bagage culturel nécessaire pour lire ces allusions. Enfin, le troisième type des images répandues dans l'art paléochrétien sans être icône, ce sont des images narratives. Ce n'est plus la transmission de l'information conditionnelle, mais assez directe. c'est le fait de montrer directement l'un ou l'autre épisode du Nouveau Testament. Et la naissance de Dieu était miraculeuse. Chaque épisode de sa vie était plein de signification. Et son sacrifice et sa résurrection avaient vraiment lieu. C'est ça que de telles images nous disent. Le sujet bien-aimé et très souvent répété, c'était des miracles du Christ. Dieu est bon et ami des hommes. Il nous donne de la nourriture, la santé, et, il nous rend la raison, l'essence, la vie même. C'est ça que ces images nous racontent. C'est ça que nous apprenons en les regardant. Mais c'est la même chose que nous pouvons lire et apprendre de l'Évangile lui-même. En effet. Par l'Évangile, par le texte de l'Évangile, nous apprenons ces histoires même avec plus de précision, plus en détail, qu'en regardant ces images. Et dans soi-même, ces images sont tout à fait incompréhensibles pour ceux qui ne sont pas instruits dans l'histoire de la vie du Christ. Et ce n'est que maintenant que nous allons regarder par le symbole, par une allégorie, par une narration des actions de la vie de notre Sauveur, mais son icône. Ce n'est que maintenant que nous voyons une image qui nous transmet l'information de lui-même. Et la transmet pas sous la forme conditionnelle, mais dans la forme directe et accessible à tous. C'est ce type des images qui s'appelle icône, dans le sens propre du terme. Et ces dimensions, le matériel dans lequel elle était réalisée sont sans importance. Selon le père d'Église, l'icône peut être réalisée dans n'importe quel matériel et n'importe quelle technique. Par exemple, l'icône peut être un relief en ivoire ou en d'autres matériels, en or par exemple. Ou bien faite en émail. Ou bien même en sculpture ronde. De Saint-Jean-Damasien, nous apprenons que c'est justement la sculpture ronde qui était une des toutes premières icônes commandées par la femme hémorragique qu'il a mis, qu'il a exposé près de sa maison comme souvenir de ce miracle. Et bien sûr aussi la peinture, et toutes les sortes de peintures. Des trempes à l'œuf, des trempes à la colle, et fresques, mosaïques. Cette image sera icône par le fait de dépiction directe, si vous voulez, portraitant, pas conditionnelle, non symbolique de Dieu incarné. C'est seulement ce type des images qui est porteur de l'information unique que nous ne trouvons ni dans les évangiles, ni dans l'enseignement dogmatique de l'Église, et tout simplement dans aucun texte, parce que c'est l'information spécifique, non verbale. L'icône, ce n'est pas la théologie, mais théognosis. Et pas par la parole, pas par la parole, mais par l'image, qui est complémentaire à tout ce qui est parolique, de la manière que à la théologie parolique est inaccessible ce que l'image transmet et vice-versa. Mais alors la grande question se pose, pourquoi l'icône est entrée dans l'usage de l'Église si tard? Vous connaissez peut-être que pendant 4 premiers siècles du christianisme, les images que nous appelons icônes dans le sens propre du terme n'existaient pratiquement pas. Pourquoi ? On peut proposer plusieurs raisons, mais la raison la plus claire, la plus naturelle, c'est justement la grande puissance de l'image comporteur l'information. Parce que si cette information ne sera pas précise, correcte, vraie, alors l'Église peut souffrir des dommages aussi sérieux que si la théologie verbale sera incorrecte. C'est, si vous voulez, l'hérésie par l'image est une chose aussi, aussi dangereuse pour l'Église que l'hérésie par la parole. Et il est clair que l'Église ne voulait pas avoir au lieu de la vraie image du Christ juste un portrait quelqu'un d'un homme d'une trentaine d'années. La soif d'avoir la vraie image du Christ était très forte. Vous savez que cette soif était payée par le sang pendant les guerres iconoclastes. Mais d'autant plus la crainte d'avoir une image incorrecte était aussi très forte. C'est pour cela qu'on traînait autant de siècles avant d'oser de représenter le Christ dans l'image directe. Et alors, c'est très naturel que l'Église a déposé au moins une partie de la responsabilité du dos des iconographes, du dos des artistes, sur le dos du Sauveur lui-même. Et je parle bien sûr des images pas faites de main d'homme. Je parle des images pas faites par la main d'homme. Surtout, ces deux histoires très connues, la voile de Véronique pour Occident et la toile du roi Abgar pour Orient. Vous connaissez très bien l'histoire de Véronique, mais l'histoire de Abgar, je vais vous rappeler juste pour être clair avec tout ceci. Le roi de la ville Edessa, Abgar, souffrait de lèpre. Et en apprenant qu'il y a quelque part à Palestine un thaumaturge, un guérisseur, il a envoyé une délégation, un artiste, pour qu'il prenne son portrait par lequel le roi pourrait se guérir. L'artiste n'arrivait pas à créer le portrait du Christ, et le Christ lui aidait lui-même en appuyant un morceau de tissu contre son visage et en obtenant... Ainsi, le vrai portrait qui a aidé vraiment le roi avec sa lèpre. Le roi s'est fait baptiser et le relique, le mandilion, le relique dit mandilion, était conservé soigneusement d'abord à Edesse, après à Constantinople et enfin était perdu au cours des routes pendant les croisades. Et je ne vais pas vous raconter toutes les versions et hypothèses qui sont liées avec ce relique et d'autres objets qui sont proches, hein, qui ont eux aussi les histoires connues et prennent leurs racines dans la profondeur du siècle. Et je ne trouve pas nécessaire même pour un chrétien de croire absolument dans cette histoire du roi Abgar. Néanmoins, nous ne pouvons pas contourner certains moments très importants parce que là, c'est certainement, c'est pas par hasard que l'Église les préserve et, sous cette forme qu'elle les préserve. Premièrement, le roi envoie une délégation pour obtenir un portrait du Christ. Pas une relique quelconque, mais un portrait. C'est-à-dire, on reconnaît l'importance exclusive, un objet qui sera créé par un artiste et dont le seul lien avec le Christ, c'est la ressemblance. Deuxièmement, on envoie un artiste. Pas un prêtre, pas un courtisan, quelqu'un comme un artiste, c'est-à-dire professionnel qui est capable de rendre cette ressemblance visible et accessible à tout le monde. Et troisièmement, l'histoire accentue le fait que l'artiste n'arrivait pas. L'expression du visage du Christ était si complexe, si vive, si profonde, que l'artiste se perdait. Il ne savait pas capturer la ressemblance et toute l'entreprise risquait d'aboutir à rien. Et quatrièmement, le Christ, au lieu de guérir le roi à la distance, comme il le faisait pas mal de fois, au lieu de lui envoyer un relique quelconque pour avoir un objet qui va guérir et le roi et tous les autres, au lieu de bénir tout simplement ce croquis mal réussi de cet artiste, le Christ a créé son portrait qui le ressemblait. Tous ces faits-là nous disent la même chose. Et ce qui est important, la seule chose qui est importante dans l'icône, c'est la ressemblance au prototype. Oui, c'est évident, mais si vous voulez, paradoxal. Parce que la question, la grande question suivante qui nous se pose tout de suite, en quoi consiste cette ressemblance? Parce que nous connaissons très bien que dans l'histoire d'art d'Église, il n'y a pas deux icônes qui se rassembleraient en tout détail. Et c'est seulement les artisans des mauvais alois, des temps tardifs, qui décalquaient, qui copiaient les modèles, je dirais, mot à mot. Mais les grands arts d'Église, des racines, et, c'est toute une rangée de représentations tout à fait différentes, très différentes, et dans le sens anthropologique, et dans le sens stylistique. C'est très visible que ce ne sont pas les images qui imitaient le même modèle peint, la même image. Alors, qu'est-ce qu'il imitait qu'est-ce qu'il mimifiait les artistes qui peignaient les icônes du Christ pendant les siècles? Est-ce qu'il décalquait le contour de l'image prototype? Est-ce qu'il reproduisait la gamme de couleurs de leur modèle? Est-ce qu'il essayait d'imiter la manière de sculpter la forme en chiaroscuro? Ou bien il savait très bien combien de couches de peinture il faut sculpter cette forme l'une après l'autre, ou des mélanges de peinture qu'il faut suivre, toute cette cuisine. Ou bien il calculait avec précision le nombre de cheveux ou de mèches dans la barbe ou dans les cheveux du Christ. Ou bien il essayait de peindre de la manière que l'image fasse l'impression d'être très ancienne. Et bien sûr, il faut répondre à toutes ces questions non, non et encore une fois non. Ça, c'est, je suis déjà passé aux icônes, aux œuvres modernes. Et, je pense qu'on est convaincu assez dans le fait que la vraie tradition de l'Église, la vraie tradition de l'image du Christ dans l'Église, ne consiste pas dans le copillage. Nous, les iconographes, nous nous servons des modèles qui viennent des siècles précédents sans les imiter mécaniquement. Mais nous percevons dans cette image la ressemblance avec le prototype de majuscule, avec le Christ, et nous cherchons uniquement la ressemblance à ce prototype. Justement, avec le prototype et pas avec un modèle quelconque qui est à la mode, qui suit le style de l'époque. Ce n'est que les artisans qui essayaient de décalquer et qui, en effet, n'arrivaient pas même au modèle, pas seulement au prototype, mais au modèle même. Ça, c'est la loi de la créativité artistique, de suivre l'essence de l'image et pas les traits superficiels. Et ça, c'est la particularité de l'image comme moyen de la transmission de l'information. C'est toujours nouveau. Et cette décadence épouvantable de l'icône traditionnelle, entre guillemets, qu'on observait à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, est provoquée justement par le fait que les artisans copiaient le modèle sans trop penser de l'essence, sans trop penser du prototype. De cette manière, en se loignant de plus en plus de ce prototype. Et de cette plénitude de théognosis qui était nous donnée dans les meilleurs échantillons de l'art d'église. La production des dilettantes ne peut pas nous ramener à un prototype tout simplement par la raison simple que de telles images ne sont pas images artistiques dans le sens propre du terme. Leurs auteurs ne connaissent pas ne comprennent pas eux-mêmes le langage dont ils parlent. Alors, de quelle transmission, de quelle tradition de l'information peut-il s'agir? Et comment il faut définir de telles images qui sont visiblement pas icônes, par les raisons n'est pas être image artistique du tout? Dans le meilleur des cas, on peut les considérer comme des images symboliques, comme dans l'Église primitive, comme c'était le cas avec des petits poissons et des anguilles. Tout simplement un signe quelqu'un pour signifier Dieu, mais pas l'instrument de la vraie connaissance de Dieu. Dans des cas plus graves, il faut dire qu'il faut les considérer comme blasphèmes par l'image. Et pas comme outil de tradition. Vous connaissez bien qu'il y a ce point de vue connu selon lequel n'importe quelle image peinte dans le style dit byzantin ou bien dans le style qui imite le style byzantin ou dans le style qui imite la cuisine de l'imitation du style byzantin est considéré automatiquement comme icône. Et les images qui sont créées dans d'autres styles, autres techniques, sont automatiquement reconnues comme indignes de titre de l'icône. Bien sûr, ce point de vue n'a aucune base dans l'enseignement de Saint-Père d'Église, ni dans l'histoire de l'art d'Église, ni dans la pratique de la vénération de l'icône, en Occident et en Orient. Ce point de vue, ce n'est qu'une invention romantique qui bloque le théognosis par l'image. Pour revenir à la compréhension correcte de la place de l'icône dans l'Église, la première chose à faire, c'est de revenir à la vision normale, de reconnaître n'importe quelle image directe, non symbolique du Christ, reconnue par l'Église, liée avec le prototype, de reconnaître comme icône, indépendamment des circonstances où cette image a été créée, en Occident ou en Orient, dans l'Église orthodoxe ou l'Église non orthodoxe. Si nous pouvons de tout notre cœur dire que ici nous voyons le Christ, notre Seigneur, alors cette image est son icône. Et ce qui concerne la production dilettante moderne, et cette production que j'ai marquée ici comme non-icône, en effet, son statut dans l'Église, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Comment on va les traiter, comme des symboles ou comme des blasphèmes. Ce qui m'intéresse, c'est l'art sérieux, c'est l'art professionnel. Et la connaissance, la théognosis responsable, reconnue par l'Église, qui a vraiment influencé profondément la compréhension des fidèles, quel est-il le Christ notre Dieu? La connaissance de l'histoire de l'image du Christ dans l'Église est aussi importante que la connaissance de l'héritage théologique verbal. Je dirais même que le premier a ses avantages, parce que l'information de comment l'Église voyait Dieu dans une ou autre période de son existence est transmise par l'image très directement et, si vous voulez, plus vite que par des textes. Et pour ceux qui, par exemple, comme moi, qui sont privés de la possibilité large de faire les connaissances avec la théologie écrite, étant paresseuse, sans connaître les langues, pour moi, c'est le moyen très important d'entrer dans la spiritualité de l'Église, surtout de l'Église occidentale, que je connais assez pauvrement. Et pour moi, ce sont les sources incomparables de l'information sur la spiritualité de mes frères en Christ. Sur les influences faites par Occident à l'Orient et vice-versa, sur les choses dans lesquelles nous sommes proches et sur les choses où nous ne sommes pas tout à fait d'accord les uns avec les autres. La contemplation, la méditation, les recherches et le choix du meilleur, du plus précis, dans toute cette richesse qui était accumulée par l'Église au cours des siècles, c'est une des activités très importantes dans la vie spirituelle d'un chrétien qui veut connaître mieux le Seigneur et avancer sur le chemin de son théosis personnel. Encore, juste pour prévenir une question qui peut-être on n'osera pas poser, mais qui sera certainement dans l'air. Dans l'histoire de la connaissance de Dieu par les mages, en Orient et en Occident, il y avait des périodes fortes et des périodes, disons, moins fortes. Parfois, c'était lié avec le niveau général de la spiritualité. Parfois, c'était lié avec le niveau de l'art tel quel. Parfois, c'était les deux qui marchaient ensemble. Assez souvent, c'était justement les deux. Et dans ces périodes, l'image cessait de servir à un avancement réel, spirituel, des fidèles. L'image fanait, glissait jusqu'au niveau d'un symbole primitif. Jusqu'au niveau de paléo-chrétien. Je souligne, pas seulement en Occident, mais en Orient aussi. C'est pas toutes les images, pas toute la production iconographique qui garde pour nous la valeur éternelle comme instrument de la tradition de connaissance de Dieu. De telles icônes, même si nous respectons dans elles l'effort honnête de l'artiste d'exprimer ce qu'il savait, ce qu'il connaissait de Dieu, pas nécessairement devront être acceptées par nous comme une expression absolument véritable des connaissances de l'Église du Christ. Si nous voyons, si nous personnellement, chacun de nous, ou les cultures d'un pays ou une église, voit clairement l'insuffisance d'une ou autre image, les manques, la distance qui éloigne du prototype, il ne faut pas se forcer en plongeant dans la contemplation de telles icônes. Il faut chercher ce qui vous parle, ce qui vous convient, où vous pouvez dire vraiment de tout votre cœur, ça c'est le Christ, notre Dieu. Et enfin, comment il faut se porter par rapport aux images, aux œuvres des artistes tout à fait professionnels, parfois même éminents, qui nous représente le Christ dans la manière directe, c'est-à-dire qui iconographiquement sont icônes, mais qui ne prétendent même pas au statut des icônes. Même dans leur concept, avant leur exécution, qui ne prétendaient pas du tout être une icône. Ici, la réponse est claire. Un tel concept ruine dès le début des racines et le concept même de l'icône. Un tel concept est non-sens. C'est un contradictio in se, une image de Dieu qui n'est pas son icône. L'artiste qui a pris l'audace de réaliser l'image directe du Christ doit comprendre qu'il est en train de peindre une icône, peindre ou sculpter une icône, justement une icône. S'il exprès, consciemment, et peint ou sculpte une non-icône du Christ, alors une telle image, dans le meilleur des cas, sera symbole du Christ, dans le pire des cas, sera une blasphème par image. Bien sûr, un tel discernement, une telle perception approfondie des images ne sont possibles que dans l'atmosphère culturelle et spirituelle où l'icône de majuscule, icône par excellence, est vraiment présente. Et l'image contemporaine du Christ par laquelle le théognosis se réalise vraiment, et ça c'est, si vous voulez, ça c'est le devoir de l'Église et la condition nécessaire de la santé spirituelle du corps d'Église hic et nunc. Bien sûr, ça doit être une entreprise durable et sérieuse, la création et le soutien de ce milieu culturel et spirituel dans lesquelles de telles images peuvent être engendrées et peuvent exister. Quelle serait-elle cette image du Christ que notre époque complexe et pas facile va amener dans le trésor de l'Église, en témoignant le niveau de notre connaissance de Dieu? Est-ce que nous saurons garder la connaissance que nous avons déjà acquise? On va le développer, on va la multiplier. Ou bien nous allons perdre les connaissances que l'Église a déjà. Nous allons rompre nos liens avec nos frères qui sont déjà morts. Nous cessons de comprendre et partager leur amour de Dieu et leur désir de le voir ici sur terre déjà. Ça ne dépend que de nous, de notre désir du salut, de la déification, de la vie éternelle, dans laquelle, selon la parole de Saint Basile le Grand, ne cesse jamais ni le son joyeux de la fête, ni la jouissance infinie de ceux qui contemplent l'ineffable beauté de ton visage. Voilà, merci.